Chapitre 30. L'abbé gagne la première manche. Deux jours après cette scène, que la jeune Europe venait de dire beaucoup plus plaisamment qu'on ne peut la raconter, car elle y ajouta sa mimique, le faux Espagnol déjeunait en tête-à-tête avec Lucien. « Il ne faut pas, mon petit, que la police ni personne mette le nez dans nos affaires, » lui dit-il à voix basse en allumant un cigare à celui de Lucien. « C'est malsain. J'ai trouvé un moyen audacieux, mais infaillible, de faire tenir tranquille notre baron et ses agents. Tu vas aller chez Madame de Sérisy, tu seras très gentil pour elle, tu lui diras dans la conversation que pour être agréable à Rastignac, qui, depuis longtemps, à trop de Madame de Nucingen, tu consens à lui servir de manteau pour cacher une maîtresse. Monsieur de Nucingen, devenu très amoureux de la femme que cache Rastignac, ceci la fera rire. C'est avisé d'employer la police pour t'espionner, toi, bien innocent des roueries de ton compatriote, et dont les intérêts chez les grands lieux pourraient être compromis. Tu prieras la comtesse de te donner l'appui de son mari, qui est ministre d'État, pour aller à la préfecture de police. Une fois là, devant monsieur le préfet, plains-toi, mais en homme politique, et qui va bientôt entrer dans la vaste machine du gouvernement, pour en être un des plus importants pistons. Tu comprendras la police en homme d'État, tu l'admireras, y compris le préfet. Les plus belles mécaniques font des taches d'huile ou crachent. Ne te fâche que tout juste. Tu n'en veux pas du tout à monsieur le préfet, mais engage-le à surveiller son monde et plains-le d'avoir à gronder ses gens. Plus tu seras doux, gentilhomme, plus le préfet sera terrible contre ses agents. Nous serons alors tranquilles et nous pourrons faire revenir Esther qui doit bramer comme les daims dans sa forêt. Le préfet d'alors était un ancien magistrat. Les anciens magistrats font des préfets de police beaucoup trop jeunes. Imbus du droit, à cheval sur la légalité, leur main n'est pas leste à l'arbitraire que nécessite assez souvent une circonstance critique où l'action de la préfecture doit ressembler à celle d'un pompier chargé d'éteindre un feu. En présence du vice-président du Conseil d'État, le préfet reconnut à la police plus d'inconvénients qu'elle n'en a, déplora les abus, et se souvint alors de la visite que le baron de Nucingen lui avait faite et des renseignements qu'il avait demandés sur Peyrade. Le préfet, tout en promenant de réprimer les excès auxquels se livraient les agents, remercia Lucien de s'être adressé directement à lui, lui promit le secret, et eut l'air de comprendre cette intrigue. De belles phrases sur la liberté individuelle, sur l'inviolabilité du domicile, furent échangées entre le ministre d'État et le préfet, à qui M. de Sérisy fit observer que si les grands intérêts du royaume exigeaient parfois de secrètes illégalités, le crime commençait à l'application de ses moyens d'État aux intérêts privés. Un matin, au moment où Peyrade allait à son cher café David, où il se régalait de voir des bourgeois comme un artiste s'amuse à voir pousser des fleurs, un gendarme, habillé en bourgeois, l'accosta dans la rue. « J'allais chez vous, » lui dit-il à l'oreille. « J'ai ordre de vous amener à la préfecture. » Peyrade prit un fiacre et monta, sans faire la moindre observation en compagnie du gendarme. Le préfet de police traita Peyrade comme s'il eût été le dernier argousin du bagne. En se promenant dans une allée du petit jardin de la préfecture de police, qui, dans ce temps, s'étendait le long du quai des Orfèvres. « Ce n'est pas sans raison, monsieur, que depuis 1809 vous avez été mis en dehors de l'administration. Ne savez-vous pas à quoi vous nous exposez, et vous vous exposez vous-même ? » La mercuriale fut terminée par un coup de foudre. Le préfet annonça durement au pauvre Peyrade que non seulement son secours annuel était supprimé, mais encore qu'il serait, lui, l'objet d'une surveillance spéciale. Le vieillard reçut cette douche de l'air le plus calme du monde. Il n'y a rien d'immobile et d'impassible comme un homme foudroyé. Peyrade avait perdu tout son argent au jeu. Le père de Lydie comptait sur sa place et il se voyait sans autre ressource que les aumônes de son ami Corentin. « J'ai été préfet de police, je vous donne complètement raison, » dit tranquillement le vieillard au fonctionnaire posé dans sa majesté judiciaire, et qui fit alors un haut-le-corps assez significatif. « Mais permettez-moi, sans vouloir en rien m'excuser, de vous faire observer que vous ne me connaissez point, » reprit Peyrade en jetant une fine œillade au préfet. « Vos paroles sont ou trop dures pour l'ancien commissaire général de police en Hollande, ou pas assez sévères pour un simple mouchard. » Le préfet gardait le silence. « Seulement, monsieur le préfet, souvenez-vous de ce que je vais avoir l'honneur de vous dire. Sans que je me mêle en rien de votre police, ni de ma justification, vous aurez l'occasion de voir que dans cette affaire, il y a quelqu'un qu'on trompe. En ce moment, c'est votre serviteur. Plus tard, vous direz, c'était moi. » Et il salua le préfet, qui resta pensif pour cacher son étonnement. Le vieillard revint chez lui, les bras et les jambes cassés, saisi d'une rage froide contre le baron de Nucingen. Cet épais financier pouvait seul avoir trahi un secret concentré dans les têtes de Contenson, de Peyrade et de Corentin. Le vieillard accusa le banquier de vouloir se dispenser du paiement une fois le but atteint. Une seule entrevue lui avait suffi pour deviner les astuces du plus astucieux des banquiers. « Il liquide avec tout le monde, même avec nous. Mais je me vengerai, » se disait le bonhomme. « Je n'ai jamais rien demandé à Corentin. Je lui demanderai de m'aider à me venger de cette stupide caisse. Sacré baron, tu sauras de quel bois je me chauffe en trouvant un matin ta fille déshonorée. » Mais aime-t-il sa fille ? Le soir de cette catastrophe qui renversait les espérances de ce vieillard, il avait pris 10 ans de plus. En causant avec son ami Corentin, il entremêlait ses doléances de larmes arrachées par la perspective du triste avenir qu'il léguait à sa fille, son idole, sa perle, son offrande à Dieu. « Nous suivrons cette affaire, » lui disait Corentin. « Il faut savoir d'abord si le baron est ton délateur. Avons-nous été sages en nous appuyant de Gondreville ? Ce vieux malin nous doit trop pour ne pas essayer de nous engloutir. Aussi fais-je surveiller son gendre, Keller, un niais en politique, et très capable de tremper dans quelque conspiration tendant à renverser la branche aînée au profit de la branche cadette. Demain, je saurai ce qui se passe chez Nucingen, s'il a vu sa maîtresse et d'où nous vient ce coup de caveçon. Ne te désole pas. D'abord, le préfet ne restera pas longtemps en place. Le temps est gros de révolution. Et les révolutions, c'est notre haut trouble. » Un sifflement particulier retentit dans la rue. « C'est Contenson, » dit Peyrade, qui mit une lumière sur la fenêtre. « Il y a quelque chose qui m'est personnel. » Un instant après, le fidèle Contenson comparaissait devant les deux gnomes de la police, par lui révérés à l'égal de deux génies. « Qu'y a-t-il ? » dit Corentin. « Du nouveau. » Je sortais du 113 où j'ai tout perdu. Que vois-je sous les galeries ? Georges, ce garçon est renvoyé par le baron qui le soupçonne d'être un mouchard. « Voilà l'effet d'un sourire qui m'est échappé, » dit Peyrade. « Oh, tout ce que j'ai vu de désastre causé par des sourires, » dit Corentin. « Sans compter ce que causent les coups de cravache, » dit Peyrade, en faisant allusion à l'affaire Simeuse, voire une ténébreuse affaire. « Mais voyons, Contenson, qu'arrive-t-il ? » « Voici ce qui arrive, » reprit Contenson. « J'ai fait jaser Georges en lui faisant payer des petits verres d'une infinité de couleurs. Il en est resté gris. Quant à moi, je dois être comme un alambic. Notre baron est allé rue Thébout, bourré de pastilles du sérail. Il y a trouvé la belle femme que vous savez. Mais une bonne farce, cette Anglaise n'est pas son ingonie. Et il a dépensé 30 000 francs pour séduire la femme de chambre. Une bêtise. Ça se croit grand, parce que ça fait de petites choses avec de grands capitaux. Retournez la phrase, et vous trouvez le problème que résout l'homme de génie. Le baron est revenu dans un état à faire pitié. Le lendemain, Georges, pour faire son bon apôtre, dit à son maître, « Pourquoi, monsieur, se sert-il de gens, de sacs et de cordes ? Si monsieur voulait s'en rapporter à moi, je lui trouverais son inconnu, car la description que monsieur m'en a faite me suffit. Je remuerai tout Paris. » « Va, lui dit le baron, je te récompenserai bien. » Georges m'a raconté tout cela entremêlé des détails les plus saugrenus, mais l'on est fait à recevoir la pluie. Le lendemain, le baron reçut une lettre anonyme, où on lui disait quelque chose comme « Monsieur de Nucingen se meurt d'amour pour une inconnue, il a déjà dépensé, beaucoup d'argent en pure perte, s'il veut se trouver ce soir à minuit au bout du pont de Neuilly et monter dans la voiture derrière laquelle sera le chasseur du bois de Vincennes, en se laissant bander les yeux, il verra celle qu'il aime. Comme sa fortune peut lui donner des craintes sur la pureté des intentions de ceux qui procèdent ainsi, monsieur le baron peut se faire accompagner de son fidèle Georges. Il y aura d'ailleurs personne dans la voiture. » Le baron y va, sans rien dire à Georges, avec Georges. Tous deux se laissent bander les yeux et couvrir la tête d'un voile. Le baron reconnaît le chasseur. 2 heures après, la voiture, qui marchait comme une voiture à Louis XVIII, que Dieu ait son âme, il se connaissait en police, ce roi-là, arrête au milieu d'un bois. Le baron, à qui l'on ôte son bandeau, voit, dans une voiture arrêtée, son inconnu qui, psit, disparaît aussitôt. Et la voiture, même train que Louis XVIII, le ramène au pont de Neuilly, où il retrouve sa voiture. On avait mis dans la main de Georges un petit billet ainsi conçu. Combien de billets de 1 000 francs, monsieur le baron lâche-t-il pour être mis en rapport avec son inconnu? Georges donne le petit billet à son maître, et le baron, ne doutant pas que Georges ne s'entende ou avec moi ou avec vous, monsieur Peyrade, pour l'exploiter, a mis Georges à la porte. En v'là un imbécile de banquier. Il ne fallait pas renvoyer Georges qu'après avoir gougé avec l'inconnu. Georges a vu la femme? Dit Corentin. Oui, dit Contenson. Eh bien, s'écria Peyrade, comment est-elle? Oh, répondit Contenson, il ne m'en a dit qu'un mot, un vrai soleil de beauté. Nous sommes joués par des drôles plus forts que nous, s'écria Peyrade. Ces chiens-là vont vendre leur femme bien chère au baron. Ja, mein Herr, répondit Contenson. Aussi, en apprenant que vous aviez reçu des giroflées à la préfecture, ai-je fait jaser Georges? Je voudrais bien savoir qui m'a roulé, dit Peyrade. Nous mesurerions nos ergots. Faut faire les cloportes, dit Contenson. Il a raison, dit Peyrade. Glissons-nous dans les fentes pour écouter, attendre. Nous allons étudier cette version-là, s'écria Corentin. Pour le moment, je n'ai rien à faire. Tiens-toi sage, toi, Peyrade. Obéissons toujours à monsieur le préfet. Monsieur de Nucingen est bon à saigner, fit observer Contenson. Il a trop de billets de 1 000 francs dans les veines. La dot de Lydie était pourtant là, dit Peyrade à l'oreille de Corentin. Contenson, viens-nous-en. Laissons dormir notre père Ad. À demain. Monsieur, dit Contenson à Corentin sur le pas de la porte. Quelle drôle d'opération de change aurait faite le bonhomme, hein? Marier sa fille avec le prix de... Ha ha! L'on ferait de ce sujet une jolie pièce, et morale, intitulée « La dot d'une jeune fille ». Ah, comme vous êtes organisés, vous autres! Quelles oreilles tu as! Dit Corentin à Contenson. Décidément, la nature sociale arme toutes ces espèces des qualités nécessaires au service qu'elle en attend. La société, c'est une autre nature. « C'est très philosophique ce que vous dites là, » s'écria Contenson. « Un professeur en ferait un système. » « Sois au fait, » reprit Corentin en souriant, et s'en allant avec l'espion par les rues, de tout ce qui se passera chez M. de Nucingen, à propos de l'inconnu. En gros, ne finasse pas. « On regarde si les cheminées fument, » dit Contenson. Un homme, comme le baron de Nucingen, « ne peut pas être heureux incognito, » reprit Corentin. « D'ailleurs, nous, pour qui les hommes sont des cartes, nous devons jamais être joués par eux. »« Parbleu, ce serait le condamné qui s'amuserait à couper le cou au bourreau !» s'écria Contenson. « Tu as toujours le petit mot pour rire !» répondit Corentin en laissant échapper un sourire qui dessina de faibles plis dans son masque de plâtre. Cette affaire était excessivement importante en elle-même et à part ses résultats. Si le baron n'avait pas trahi Peyrade, qui donc avait eu intérêt à voir le préfet de police? Il s'agissait pour Corentin de savoir s'il n'existait pas de faux frères parmi ces hommes. Il se disait, en se couchant, ce que ruminait aussi Peyrade. Qui donc est allé se plaindre au préfet? À qui cette femme appartient-elle? Ainsi, tout en s'ignorant les uns les autres, Jacques Collin, Peyrade et Corentin se rapprochaient sans le savoir. Et la pauvre Esther, Nucingen, Lucien, allaient nécessairement être enveloppés dans la lutte déjà commencée. Et que l'amour-propre particulier aux gens de police devait rendre terrible.